Selon les Écritures. Selon les Écritures, le père Alain Marchadour, bibliste, dialogue avec Pierre-Yves Révillon.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission biblique Selon les Écritures. Pierre-Yves Révillon au micro, avec le père Alain Marchadour, bibliste. Bonjour père Alain.
Bonjour Pierre-Yves.
La semaine dernière, nous avions commencé la relecture des Écritures de Noël avec un texte du prophète Isaïe en forme d'oracle. Voici, la jeune femme est enceinte, elle va enfanter un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Nous avions vu que 8 siècles plus tard, dans l'évangile de Matthieu, cette prophétie est confirmée à Joseph qui vient d'apprendre que Marie est enceinte. L'ange du Seigneur dit à Joseph, « Marie enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Aujourd'hui, nous allons relire l'évangile de la nuit de Noël, celui de Luc au chapitre 2, versets 1 à 21 dans la Tobe. Or, en ce temps-là, parut un décret de César Auguste pour faire recenser le monde entier. Ce premier recensement eut lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la ville de Nazareth en Galilée à la ville de David, qui s'appelle Bethléem en Judée, parce qu'il était de la famille et de la descendance de David. Pour se faire recenser, avec Marie son épouse qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le jour où elle devait accoucher arriva. Elle accoucha de son fils premier-né, l'emmaillota et le déposa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle d'hôte. Il y avait dans le même pays des bergers qui vivaient aux champs, ou montaient la garde pendant la nuit auprès de leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présenta devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppa de lumière et ils furent saisis d'une grande crainte. L'ange leur dit, « Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Il vous est né aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur, qui est le Christ Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Tout à coup, il y eut avec l'ange l'armée céleste en masse qui chantait les louanges de Dieu et disait « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre, paix pour ses bien-aimés. » Or, quand les anges les eurent quittés pour le ciel, les bergers se dirent entre eux, « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce que leur disaient les bergers. Quant à Marie, elle retenait tous ces événements en en cherchant le sens. Puis les bergers s'en retournèrent, chantant la gloire et les louanges de Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, en accord avec ce qui leur avait été annoncé. 8 jours plus tard, quand vint le moment de circoncire l'enfant, on l'appela du nom de Jésus, comme l'ange l'avait appelé avant sa conception. Père Alain, Luc est le seul évangéliste à nous raconter la naissance de Jésus à proprement parler. Sur quoi fonde-t-il son récit? a-t-il eu accès à des informations et des témoignages que n'avaient pas les trois autres évangélistes ?
Oui, c'est évidemment une question que chacun se pose. Peut-être que le plus facile pour comprendre comment sont nés les évangiles, c'est de se dire que lorsque les disciples, les écrivains vont vouloir raconter la vie de Jésus, ils vont partir de ce qu'ils connaissaient le mieux, c'est-à-dire depuis le baptême de Jean-Baptiste. C'est le point de départ de l'histoire. Et donc, ça, c'est la partie historique qui va du baptême de Jean-Baptiste qui baptise Jésus jusqu'à la mort et la résurrection de Jésus. Ça, c'est le cycle historique. Et ce n'est que plus tard que deux évangélistes, deux écrivains, Matthieu d'un côté et Luc, qui nous intéresse aujourd'hui, vont essayer de prolonger au fond et plonger dans l'enfance de Jésus et raconter sa naissance et comment ça s'est passé. C'est pour ça que nous avons évidemment des récits assez particuliers qui sont peut-être plus théologique qu'historique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'histoire à l'intérieur de ces récits, mais manifestement, ça s'est fait longtemps après. C'est-à-dire que, comme ça arrive souvent dans la vie des héros, ce n'est qu'à la fin qu'on essaie de retrouver l'enfance du héros, mais il est surtout connu, le héros, par ce qu'il a fait, par les actions qui l'ont marqué. On pourrait dire la même chose de Jésus. C'est à partir du baptême qu'on aura des éléments peut-être plus fermes, plus historiques. Le fait de remonter au commencement est aussi quelque chose de précieux pour nous, bien sûr, pour connaître notre mystère de Jésus et son origine.
On l'avait vu dans l'émission sur les commencements, où justement on avait déjà regardé Luc, et on s'était rappelé qu'il avait quand même une fibre d'historien,
Luc. Bien sûr, oui, c'est incontestable. Puis il a dû faire des recherches, c'est-à-dire qu'on se pose souvent des questions de savoir, mais d'où a-t-il eu ces informations, comment sait-il tout cela? Alors la tradition un peu religieuse et spirituelle va vouloir chercher du côté de la mère de Jésus, c'est-à-dire on dira oui, c'est la mère de Jésus qui l'a informé, qui lui a communiqué des informations, pourquoi pas, mais peut-être pas jusque dans le détail, hein, mais c'est vrai, je crois qu'il doit y avoir évidemment une source à laquelle il a puisé, et évidemment, rien de plus beau que d'imaginer que ce soit justement Marie elle-même qui ait pu l'informer.
Alors, au début du récit, il y a des précisions qui sont données sur le contexte historique. Il est question d'un recensement décrété par l'empereur Auguste sous le gouvernorat de Quirinius, en Syrie, et de l'obligation faite à Joseph et Marie de faire le déplacement de Nazareth à Bethléem pour se faire recenser. Que sait-on réellement sur les circonstances de la naissance de Jésus, au sens historique, et que répondre à ceux qui, encore aujourd'hui, contestent son historicité et même son existence?
Contester son existence et son historicité, je pense que ce n'est pas très sérieux. Aujourd'hui,
il y a eu un livre récent d'un philosophe connu qui a défrayé la chronique.
Il était hors de ses compétences quand il a fait cette proposition. Non, ce que l'on peut dire, évidemment avec justesse, c'est que sur l'enfance, on a peu d'éléments, mais vous faites allusion à cette partie du texte qui évoque le recensement. Alors c'est vrai que ça pourrait... Luc, c'est intéressant de remarquer, Luc aime bien inscrire les événements de Jésus dans l'histoire. C'est un de ses soucis permanents. Luc était un historien, ne l'oublions pas, ce que n'étaient pas les autres évangélistes. Et donc, il a ce souci d'enraciner au fond la vie de Jésus. Après, est-ce que c'est très valable ou fiable ce qu'il nous dit là, ça c'est plus difficile. On sait que Quirinius a fait un recensement, mais c'était autour des années 6-7 après Jésus-Christ. Et du coup, certains ont dit, bon, peut-être qu'il a fait deux recensements, c'était une des hypothèses. Aujourd'hui, on n'est pas très au clair sur cette façon, parce que vous savez que quand on a voulu faire la chronologie de la naissance de Jésus, l'an 0, on pourrait dire, ou l'an 1 de la naissance, nous sommes en 2017, on a perdu 4 années. Il semble que Jésus est né 4 ans après sa naissance, puisque le contact, quand il a été fait, le calcul n'a pas été très juste. Donc, c'est pour dire, sur cette partie de la vie de Jésus, nos sources, évidemment, sont plus fragiles. Et donc, il ne faut pas nous étonner qu'il y ait une part, si vous voulez, de relecture, de prolongement spirituel, d'approfondissement religieux. Donc, ne cherchons pas trop à repérer les événements, les faits historiques dans leurs détails.
Alors, si on rentre maintenant dans le récit, les premiers témoins de la naissance de Jésus sont des bergers, tout le monde le sait. Mais ce qu'on sait peut-être moins, c'est qu'ils n'avaient pas bonne réputation. Ils vivaient au contact des animaux, ce qui les rendait impurs pour les rites religieux. Pourquoi l'ange s'adresse-t-il à eux en premier ?
Alors là encore, on peut faire des parallèles. Si on regarde Matthieu, ce sont des personnalités qui viennent, sont des mages, qui viennent de l'Orient et qui ont été inspirés par leur quête scientifique. Ici, ce sont des bergers. Et à juste titre, vous dites qu'ils n'avaient pas une très bonne réputation parce qu'ils avaient la réputation d'être des gens qui volaient. Et le fait qu'on dit qu'ils gardaient leur brebis, leur troupeau pendant la nuit, c'est sans doute qu'ils devaient protéger leur brebis d'éventuels vols. Mais peut-être qu'il y a quelque chose aussi de très riche. Luc est plus du côté de la pauvreté. Luc nous présente un Jésus qui donne beaucoup la parole aux plus pauvres, qui les privilégie. Et donc, ceux qui ont accueilli le mystère de la révélation, de la naissance du Messie, ce ne sont pas des grands personnages, ce sont des gens simples, ce sont des gens qui n'ont pas fait d'études, qui avaient des métiers méprisés, vous l'avez dit, par les pharisiens, qui étaient considérés comme étant automatiquement des pécheurs, parce qu'ils ne respectaient pas la Torah, donc c'était des pauvres, et ce sont ceux-là qui vont être interpellés par par l'ange pour les inviter à aller accueillir la grande nouvelle qui vient de retentir. Le Dieu vient de donner au monde un Messie sous la séquence donc que vous avez lue tout à l'heure.
Alors l'ange il tient pas trop compte de leur condition de pauvre parce qu'il leur dit une phrase qui est quand même pas évidente à comprendre. Hein. Une bonne nouvelle, il vous est né aujourd'hui dans la ville de David un sauveur qui est le Christ Seigneur. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Alors cette annonce déjà a dû les surprendre et puis elle pouvait aussi être choquante pour les Juifs de cette époque parce qu'ils attendaient en fait un Messie qui devait ressembler à Moïse ou au roi David, et l'ange envoie les bergers auprès d'un bébé. Comment peut-on interpréter cela ?
Bien, il faut toujours revenir à ce que je vous disais tout à l'heure. Ce que l'on écrit en tout dernier dans la biographie des héros, des personnages, c'est toujours l'enfance. L'enfance, c'est ce qui est venu en tout dernier. C'est-à-dire, c'est ce qui est venu quand on a pris la mesure, au fond, à la fois théologiquement, spirituellement, de ce que signifiait l'incarnation. Jésus est venu dans une pauvreté très grande. Quand on lit les textes avec un regard un peu critique, on se dit, Jésus a eu l'aventure d'un immigré, finalement. Quelqu'un qui a dû quitter son pays à cause d'un empereur qui voulait gagner de l'argent, parce que le fait de vouloir compter ses sujets, c'était évidemment très intéressé, donc pour pouvoir trouver des moyens de continuer les guerres, les conquêtes, et cette petite famille qui naît finalement avec un jeune couple qui porte un enfant qui va naître, eh bien ce sont des immigrés qui viennent dans un pays qui est leur pays d'origine, mais ils étaient à Nazareth à ce moment-là, et donc ils vont revenir dans le lieu d'origine de Joseph, puisqu'il est de la famille de David, et que chacun devait aller se faire recenser dans le lieu de son origine. Et c'est donc ça qui est important, cette marque au fond d'une pauvreté avec ce fait d'être jeté ou projeté dans une mangeoire. Moi je pense que le mot mangeoire est peut-être un peu excessif. Je pense qu'on sait qu'à l'époque de Jésus, il y avait des possibilités pour des voyageurs de se loger dans des voyages. Et souvent, c'était des grandes salles, des salles ouvertes, des salles disponibles où les gens pouvaient s'arrêter pour pouvoir se reposer, parfois pour pouvoir aussi dormir la nuit. Et c'est ce qui leur est arrivé. Il n'y avait pas de place, c'est vrai, et ils ont été accueillis dans un lieu ouvert et où ils ont dormi. Ça a été le premier moment pour le Jésus, qui pour nous, bien sûr, est le Seigneur, mais L'était-il aux yeux de ceux qui ont perçu cet événement, qui l'ont vu arriver? Il devait ressembler aux immigrés d'aujourd'hui qui arrivent parfois avec leurs enfants, comme les pauvres, et qui cherchent un logement pour les accueillir.
Peut-être que dans les trois titres qui sont donnés à l'enfant Jésus par l'ange, ils étaient peut-être plus sensibles au terme sauveur, peut-être. Ou Christ, le Messie, peut-être.
C'est-à-dire, l'évangéliste nous fait dire à l'ange, d'une certaine façon, au fond, ce que le ce petit enfant est devenu à travers son parcours et surtout à travers sa résurrection. La résurrection l'a fait sauveur, l'a fait Seigneur et l'a fait Christ. Et donc lui, qui connaît toute l'histoire, il peut attribuer aux anges, parce que les anges y sont au-delà du temps, une parole qui exprime la totalité du mystère du Christ, et c'est ces trois titres. Mais au niveau historique, on peut penser que ça a dû être beaucoup plus simple et beaucoup plus humble.
Alors, ensuite, les anges continuent de chanter en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix pour ses bien-aimés ». Alors, qui sont les bien-aimés de Dieu ? Parce que cette expression, elle peut peut-être sous-entendre qu'il y aurait peut-être certaines personnes qui n'en feraient pas partie.
Oui, alors, ça c'est une phrase qui est très connue, qu'on a souvent mal traduit. On la traduisait « paix aux hommes de bonne volonté ».
Oui, oui.
C'était la traduction ancienne. Aujourd'hui, on a...
On le chantait dans les cantiques aussi.
On a plus pris conscience de la vraie traduction, c'est « paix aux hommes qui sont aimés de Dieu ». Alors, cette idée que tous les hommes sont aimés de Dieu, mais Jésus vient pour faire reconnaître cet amour, parce qu'être aimé de Dieu, c'est une chose... Mais la réponse à cet amour de Dieu, c'est une autre chose. Donc là, on fait plutôt appel à ceux qui, étant aimés de Dieu, comme ces pauvres, ces bergers qui n'avaient rien, qui n'avaient aucune culture, peut-être pas très religieux, c'est eux qui sont les destinataires, au fond. Et là, nous sommes tout à fait au cœur de l'évangile de Saint-Luc, qui privilégie le pauvre, heureux les pauvres. Il met au cœur de son évangile, depuis le commencement, ce qui arrivera dans la vie publique de Jésus.
C'était déjà un petit peu avant l'ère, cette fameuse option préférentielle pour les pauvres.
Et voilà, c'est évidemment, évidemment. Mais c'est vrai de tous les évangiles, mais c'est surtout vrai de Saint-Luc. Luc, la communauté de Luc était une communauté de gens pauvres, hein, qui a supporté souvent les difficultés économiques. Et c'était ces pauvres dont parlent les béatitudes, hein, bienheureux les pauvres, mais des pauvres réellement. Pas simplement des pauvres spirituels, aussi des pauvres matériellement.
Alors il y a un verset, moi, qui m'a un peu interpellé, le verset 19, qui dit « Marie retenait tous ces événements en en cherchant le sens ». Alors ça rejoint peut-être ce que vous disiez tout à l'heure à propos de Luc, qui a peut-être eu des informations auprès de Marie. Est-ce qu'on pourrait dire que Marie, d'une certaine manière, était une sorte d'exégète ?
Non, elle méditait, c'est-à-dire qu'on voit bien, d'après la façon dont elle a eu l'écoute, quand la voix l'a appelée pour lui annoncer qu'elle allait être la mère du Sauveur, évidemment c'est un événement qui a dû être bouleversant pour elle. Et en même temps, ce bouleversement, elle va le porter tout au long de sa vie. Et quand vous vous souvenez, par exemple, quand Jésus s'est perdu dans le temple, et la parole de Marie, elle est quand même très révélatrice. « Pourquoi nous as-tu fait cela ? Ton père et moi, nous te cherchions. » Dans l'inquiétude, ça veut dire qu'ils ont eu le rapport que peut avoir une famille avec un petit garçon qui s'est perdu et qui suscite une inquiétude énorme. Donc Marie, elle a dû porter beaucoup de choses dans sa vie. Elle a dû découvrir progressivement tout ce mystère. Et quand on regarde les évangiles, on s'aperçoit que finalement, c'est Saint Jean qui va aller au bout de cette découverte quand il fera de Marie celle qui dit à ses disciples qui sont là, vous vous en souvenez, on aura peut-être l'occasion un jour d'étudier ce texte, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Elle est celle qui est mère et qui, tout en restant mère, se fait disciple de son Seigneur. Mais ça, il faudra du temps, il faudra tout un cheminement.
Alors pour terminer, je ne peux pas m'empêcher d'évoquer le fait que ce récit évangélique a inspiré la tradition de la crèche. Mais curieusement, le texte ne mentionne pas l'hôtellerie, vous en avez parlé, qui aurait refusé Marie et Joseph, ni la grotte, ni l'étable avec son bœuf et son âne. Il est seulement question d'une salle d'eau, d'une mangeoire, qui aurait servi de berceau à Jésus. Quand et comment est née cette tradition de la crèche ? Quelle peut être sa signification aujourd'hui ?
C'est le mot crèche, oui. Tout ça, c'est très tardif. C'est-à-dire, ça s'est développé, ce sont des prolongements populaires qui vont développer cette thématique de la crèche. Mais au départ, c'était plus dans une nudité, une simplicité. Encore une fois, ça nous donne un peu ce que peut-être l'image des hommes et des femmes qui sont obligés de quitter leur pays et qui s'en vont, souvent avec des petits-enfants. Et Jésus était encore en train de naître. Il va naître dans une condition d'austérité, de difficulté. C'est peut-être ça qui nous marque le plus.
Ben, nous resterons sur cette remarque qui nous touche et puis qui nous envoie un peu en mission quelque part. Hein. Alors, on est au terme de cette deuxième et dernière émission consacrée aux Écritures de Noël. Merci à vous, Père Alain Marchadour, pour nous avoir aidé à relire ces textes sur la naissance du Christ qui est venu dresser sa tente dans notre monde. Merci aussi à Christophe Aubry qui assurait la réalisation. Nous souhaitons à tous nos auditeurs une très belle fête de Noël. Cette émission sera rediffusée dans la semaine et elle peut être réécoutée à tout moment en podcast sur le site web de votre radio. Si vous souhaitez réagir ou nous interroger, vous pouvez nous envoyer un mail à selonlesecritures@radioprésence.com. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de Selon les Écritures. Merci à tous et à très bientôt sur notre antenne.